Bonjour et bienvenue à Espérance aujourd'hui. Je m'appelle Ian.
Et je m'appelle Hélène. Nous sommes heureux de vous retrouver.
Espérance aujourd'hui est une émission de réflexion biblique.
Dès à présent et durant plusieurs émissions, nous allons nous demander quelle est la place du chrétien dans la société dans laquelle il vit. Et quelle influence peut-il y exercer?
Nous allons aborder ces thèmes avec l'aide de notre invité Robert, que nous sommes contents d'accueillir sur le plateau d'Espérance aujourd'hui. Bonjour Robert.
Bonjour Yann, et bonjour à tous, et merci de votre invitation. Pour commencer cette série de discussions, je vais aborder quelques généralités, et je prendrai pour point de départ des pensées qui se dégagent de la prière de Jésus. Trouvé dans l'évangile de Jean, chapitre 17. Écoutons de suite quelques extraits.
Je leur ai donné ta parole, et le monde les a pris en haine, parce qu'ils ne lui appartiennent pas, comme moi-même, je ne lui appartiens pas. Je ne te demande pas de les retirer du monde, mais de les préserver du diable. Ils n'appartiennent pas au monde, comme moi-même, je ne lui appartiens pas. Consacre-les par la vérité. Ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi je les y envoie.
Le mot « monde » apparaît souvent dans le texte que notre lectrice vient de lire. Oh, précisément, nous abordons le thème de la place du chrétien dans le monde. Il me semble alors important de commencer cette étude en définissant ce que la Bible entend par ce mot.
Le monde désigne, dans un premier temps, l'endroit où nous habitons. Il comprend notre environnement naturel, et inclut notre culture et notre société. Cependant, le mot « monde » désigne aussi dans la Bible une autre réalité. Il s'agit en effet des idées et des influences qui s'opposent à Dieu et qui sont présentes dans notre culture et dans notre société. Je ne dis pas que tout ce qui est issu du monde est mauvais. Non, bien des éléments positifs résident dans le monde. Cependant, la nature pécheresse de l'homme et la domination de Satan sont responsables des maux et des malheurs qui y abondent, et nous devons, en tant que chrétiens, nous demander quelle attitude adopter pour faire face à ces influences néfastes.
Vous venez de définir le thème central de cette série de discussions. Qu'apprenons-nous donc du texte biblique que nous avons écouté tout à l'heure?
Nous apprenons au moins trois leçons. D'abord, le chrétien risque de se trouver en conflit avec le monde. Ensuite, Jésus ne nous demande pas de nous retirer du monde, mais de demeurer dans le monde et de s'y comporter différemment. Enfin, Jésus nous envoie dans ce monde pour accomplir le bien.
Ce que vous dites est intéressant, car confronté au fait que le monde est un endroit difficile et dangereux, le chrétien peut être tenté de vouloir vivre une vie totalement retirée du monde.
En effet. Et cependant, Jésus nous demande le contraire. D'une part, il nous exhorte à ne pas céder aux influences du monde qui nous poussent à pécher, mais de surcroît, il nous invite à exercer une présence dans le monde, une présence positive, une influence bienfaisante. Ceci n'est pas toujours facile. Certains chrétiens, d'ailleurs, motivés par le désir d'être purs et saints, se retirent totalement du monde. Ils peuvent même cesser de fréquenter les non-croyants, ou vivre en communauté avec d'autres chrétiens, et limiter autant que possible tout contact avec le monde. Or, une telle démarche n'est pas en accord avec l'exemple de Jésus, ni avec son enseignement.
Et y a-t-il des exemples dans la Bible qui illustrent vos propos?
Oui, je pense particulièrement à Matthieu, Lévi, et le récit le concernant qui se trouve dans l'évangile de Luc, chapitre 5. Matthieu, Lévi, était un collecteur d'impôts. Or, à l'époque, les personnes qui exerçaient une telle profession étaient réputées pour leur malhonnêteté. Matthieu recherchait avant tout à s'enrichir, et pour parvenir à ses fins, il avait recours à la corruption, au mensonge et à l'injustice. Or, ces pratiques du monde exerçaient une forte emprise sur lui. Cependant, un jour, il rencontra Jésus, et ce dernier lui demanda de le suivre. Sa rencontre avec le Seigneur provoqua chez Matthieu un profond changement qui le libéra de l'emprise du monde dans sa vie. En effet, pour pouvoir suivre Jésus, il fallait qu'il renonce à l'avarice et à la malhonnêteté et il fallait qu'il devienne un homme intègre et droit. Mais une question se posa certainement pour lui. Allait-il continuer à fréquenter les autres collecteurs d'impôts? Fallait-il refuser de les voir? Arrêter tout contact? La démarche qu'il choisit nous est révélée en Luc 5. Nous lisons que Matthieu, Lévi donc, organisa un grand festin auquel il convia tous ses amis dont certains étaient justement réputés pour leur malhonnêteté. Ainsi, Matthieu avait rejeté le péché de sa vie, mais il n'avait pas rejeté ceux de son entourage qui pratiquaient encore le péché. Il continuait à les fréquenter.
Mais ce festin organisé par Matthieu ne risquait-il de tourner à la débauche?
C'est ce que craignaient les pharisiens. Ces derniers pensaient que pour demeurer pur, il ne fallait jamais manger avec des personnes qui pratiquaient ouvertement le péché. Ils craignaient même de devenir impurs par contagion, une croyance que Jésus a par ailleurs démentie. Revenons alors à ce festin. Luc nous révèle que Jésus y était aussi présent, et nous pouvons en déduire que la motivation de Matthieu n'était pas du tout d'encourager à la débauche. Car il est tout à fait possible de passer de bons moments avec des non-croyants sans pour autant sombrer dans le péché. Toutefois, le désir de Matthieu, j'en suis sûr, était que ses amis et collègues puissent rencontrer Jésus. Matthieu souhaitait ardemment qu'ils puissent être libérés de l'emprise destructrice du monde pour vivre plutôt avec le Christ. Matthieu avait renoncé au mal. Il avait découvert les valeurs divines de la justice, de la droiture et de l'intégrité, et il désirait promouvoir ces qualités autour de lui.
Donc quand Jésus ordonne à chacun de ses disciples « Suis-moi », il ne s'agit pas là d'un appel à tout quitter pour s'isoler du monde qui nous entoure.
Non, pas du tout. Quand nous suivons Jésus, il nous apprend à discerner ce qui dans le monde peut avoir une emprise dans nos vies, et par la puissance de son esprit, il nous aide à en être libérés. Par l'enseignement de sa parole, il nous permet aussi de rechercher la pureté, la sainteté, la droiture, tout en demeurant dans un environnement pas toujours facile. Et puis, en tant que disciple, Jésus nous envoie dans le monde afin d'y exercer une influence positive.
Donc Jésus nous demande de discerner et de rejeter les influences du monde dans notre propre vie, sans pour autant rejeter les personnes qui nous entourent.
Oui, tout d'abord, nous devons mener un combat contre le péché qui réside encore dans nos cœurs. Et ensuite, Jésus nous envoie dans le monde pour combattre le mal et y instaurer le bien. Ce combat doit être mené en pratiquant l'amour de Dieu. Il doit être gagné par la prière, par des vies qui reproduisent les belles qualités trouvées en Jésus-Christ.
Merci Robin pour cette introduction sur ce sujet que nous allons développer. Nous approfondirons ces choses davantage la prochaine fois en examinant l'enseignement de Jésus qui, en s'adressant à ses disciples, leur demande d'être le sel et la lumière de la terre. Ce sont des images qui illustrent bien l'influence que nous devons avoir dans le monde.
Merci Robert pour vos enseignements clairs et instructifs sur ce thème si important. Nous allons à présent passer à notre courte méditation biblique, dont le sujet porte sur le fruit de l'Esprit.
Nous nous pencherons plus exactement sur quelques paroles bien connues, écrites par l'apôtre Paul. Nous les trouvons dans sa lettre à l'église de Galates, chapitre 5, versets 22 et 23.
Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. La loi ne condamne certes pas de telles choses.
Le thème de cette série de méditations bibliques est donc le fruit de l'Esprit. Et nous sommes heureux d'accueillir Étienne parmi nous. Aujourd'hui, il va nous parler de la façon dont il abordera ce thème.
Tout arbre fruitier a été créé pour produire un fruit et le porter en abondance. Ainsi, si un manguier est couvert de mangue, nous savons qu'il est en bonne santé, qu'il reçoit en quantité suffisante de la lumière, de l'eau et des nutriments. Nous savons aussi qu'il n'est pas victime de maladies ni attaqué par des insectes nuisibles. Toutefois, Si ce même manguier ne donnait plus de fruits, il décevrait son propriétaire et risquerait, au cas où cette situation persistait, d'être abattu. Il en est de même pour le chrétien. Sa raison d'être est de porter du fruit. Un fruit dont l'apôtre Paul décrit les qualités, un fruit qui est l'œuvre de l'Esprit dans sa vie. Nous constatons même que ce fruit, décrit par l'apôtre, révèle le caractère de Jésus-Christ. Le prophète Ésaïe a déclaré au sujet du roi serviteur, promis par l'Éternel, je cite, « L'Esprit reposera sur lui, et cet Esprit lui donnera le discernement, la sagesse, le conseil et la force, et lui fera connaître l'Éternel. » Jésus-Christ était donc un homme animé par l'Esprit, dont le fruit, les qualités et les vertus étaient pleinement présentes en lui. En tant que chrétien, nous devons donc aspirer à voir ce même fruit abonder dans nos cœurs. Les qualités de ce fruit reflètent en effet le caractère du chrétien mature, du chrétien qui veut dépendre de l'Esprit, du chrétien qui a soif de reproduire en lui l'image de Christ, comme l'écrit l'apôtre Paul aux Corinthiens. Nous tous, qui contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en son image, dans une gloire dont l'éclat ne cesse de grandir. C'est là l'œuvre du Seigneur, c'est-à-dire de l'Esprit. Comment vais-je aborder cette série de méditations sur le fruit de l'Esprit ? Je vais considérer chacune des qualités qu'il produit, afin de bien définir ce dont l'apôtre Paul parlait. En nous penchant sur chacune de ces qualités, nous verrons à quel point Jésus en est l'exemple parfait. Ensuite, nous chercherons à comprendre ce que la qualité dont nous parlons implique pour nous, c'est-à-dire ce que l'Esprit voudrait produire dans nos vies. Nous parcourrons ces études ensemble et nous apprendrons ce que Dieu attend de nous, la façon dont nous pouvons favoriser cette œuvre dans nos cœurs. Et pour conclure cette première méditation sur le fruit de l'Esprit, je voudrais insister sur son importance. Importance qui nous est révélée par les paroles de Jésus au chapitre 7 de l'Évangile de Matthieu. Jésus annonce « Ainsi, un bon arbre porte de bons fruits, un mauvais arbre produit de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut pas porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre de bons fruits. Tout arbre qui ne donne pas de bons fruits est arraché et jeté au feu. Ainsi donc, c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. »
Merci Étienne pour cette introduction à notre série de méditations sur le fruit de l'Esprit. Et merci aussi pour cet avertissement qui consiste à déclarer que là où le fruit de l'Esprit semble être absent de la vie d'un être humain, on peut alors douter de l'authenticité de sa foi.
Nos deux séries continueront la prochaine fois et nous espérons que vous serez de retour parmi nous. En attendant, nous vous disons au revoir.
Au revoir et que Dieu vous bénisse.